Bonsoir. La société civile du Nord Kivu dresse un bilan positif de la situation sécuritaire dans les territoires de Beni, un mois après l'organisation du dialogue social. Pour cette organisation, les massacres à grande échelle ne s'observent plus dans cette partie du pays. Quel est le pire faire de cette déclaration? Nous en parlons avec Julien Paloukou, il est gouverneur de la province du Nord Kivu. Bonsoir, monsieur le gouverneur Julien Paloukou.
Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Katu.
Thomas Dakin Mouiti, le président de la société civile du Nord Kivu. Bonsoir, monsieur Thomas Dakin Mouiti.
Bonsoir, monsieur Alain. Bonsoir également à son excellence, monsieur le gouverneur de province, qui est le co-débatteur en cette émission.
Et professeur Bob Kabamba, il est professeur à l'Université de Liège en Belgique, coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Bonsoir, professeur Bob Kabamba.
Bonsoir, monsieur Erung, et bonsoir aux auditrices et auditeurs de Radio Tapi, ainsi que mes co-débatteurs, dont je m'excuse le gouvernement du Nord Kivu.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio Tapi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Bilan positif pour le dialogue social un mois après son lancement à Beni, selon les acteurs de la société civile dans le Nord Kivu. Ils se réjouissent des résultats de ce dialogue social. Ils notent notamment l'amélioration notable de la sécurité et les succès obtenus au sujet des opérations conjointes contre les ADF. Initié en décembre dernier, ce dialogue sur la paix et la sécurité en ville et territoire de Beni avait pour but d'arrêter les massacres à grande échelle enregistrés dans les territoires de Beni. Omar Kavota, porte-parole de cette structure, se réjouit de ces résultats. Il est joint par Denise Loukesso.
À la suite de ce dialogue social, on a mis fin à ces accusations mutuelles qui s'observaient dans les mondes politiques et qui avaient une certaine incidence sur l'action même de l'armée. À la suite d'une cohésion, il s'observe une très grande amélioration sur le plan sécuritaire. Les massacres à grande échelle ne s'observent plus. Les populations commencent progressivement à accéder à leur champ. Des succès au niveau des opérations militaires sont vraiment patents. Nous pensons que ce dialogue social a beaucoup contribué et il importe que ces acquis soient capitalisés de manière à ce que tout le monde, les grands notables et les citoyens de Beni soient mis à contribution pour la sécurisation et la paix effective de cette année. Nous voudrions appeler en même moment le gouvernement et la communauté internationale à accompagner le comité de suivi de ce dialogue social pour qu'on capitalise cette paix, cette accalmie qui s'observe à ce jour à ville et à territoire de Beni.
Je précise que c'est Guy Maté à la présentation. Thomas Dakin Mouiti, je rappelle que vous êtes président de la société civile du Nord Kivu. Un mois après la tenue du dialogue social à Beni, la société civile dresse un bilan positif de la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Quels sont les faits qui vous amènent aujourd'hui à affirmer que la situation sécuritaire s'est améliorée?
Avant de répondre à votre question, laisse-moi m'acquitter d'une obligation, celle de remercier d'abord tous ceux qui ont contribué de près ou de près ou de loin dans la réalisation de cette activité. Je voudrais aussi remercier les amis qui ont accepté de se présenter dans ce dialogue qui a abouti à des résultats non négligeables. Et en réponse à votre question, il faut comprendre que lorsque nous avons organisé ce dialogue, il ne s'est passé pas deux jours à Beni sans qu'il y ait un massacre. Vous vous souviendrez que nous sommes arrivés à dénombrer plus de 285 personnes déjà massacrées, déjà tués dans un intervalle de moins d'un mois ou de deux mois. Et après notre atelier, notre dialogue social, il n'y a pas un seul citoyen qui ait été tué après le dialogue. Ce qui signifie que pour nous, nous ne disons pas que c'est seulement le dialogue qui nous amène à ce résultat. Mais entre autres contributions qui nous amènent à ce résultat actuellement, c'est cette vérité qui a caractérisé les participants en se parlant en face, sans tabou, en essayant de pointer des doigts les vérités qui sont autour de ces massacres. Et nous pensons, sans le moindre doute, que nous pouvons être contredits par celui-ci ou celui-là, mais nous pensons et nous sommes convaincus que c'est parmi les causes qui nous amènent à ce que nous traversons aujourd'hui.
Alors, Monsieur le Président Thomas Dakamouti, vous dites que vous parlez, n'est-ce pas, de cette vérité qui avait caractérisé les participants à ces dialogues sociaux. Il s'agit de quelle vérité?
Écoutez, entre autres méthodologies que nous avons appliquées dans cet atelier, nous n'avions pas une méthode figée. Des exposés ou de quoi, mais nous avons commencé par demander aux gens, aux participants, de donner leurs craintes, leurs attentes, et à partir de toutes ces attentes et craintes, nous sommes aboutis à 5 problèmes majeurs, et entre autres problèmes, on a dit qui est le tueur, qui est celui-là qui tue. Et cette question, c'est ce que mon collègue Omar a informé, a donné comme affirmation, en disant que il y avait des contradictions qui ont été étalées par les politiciens, les leaders politiques du milieu, et ces leaders-là, quand ils se contredisaient, quand ils se pointaient des doigts, la population a été divisée et cette division au sein de la population n'a pas permis à celle-ci de donner sa contribution pour reconnaître qui est le tueur. Puisque les uns commençaient à dire, mais on a dit que c'est tel. Et les autres disaient, mais ce n'est pas seulement lui, il y a aussi tel. Et là, c'était en faveur de l'ennemi qui disait qu'on est en train d'oublier celui qui est en train de tuer et on est en train de s'entrepointer.
Mais
et donc, pour nous, nous pensons que cette vérité-là, qui a été étalée par le groupe qui a traité la question de qui est le tueur, qui est celui-là qui est... Qui sont les alliés aux tueurs?
Monsieur Thomas Dakamouti.
Et toutes ces vérités-là. Je vous donne l'information que quelqu'un...
C'est qui les tueurs?
Parmi les participants a dit ce dialogue ici, c'est tout simplement un forum de vérité et de réconciliation. Et donc, vous me posez la question, quelle est cette vérité ou qui est le tueur? Après le débat, on a compris que les tueurs, ce sont les ADF. Mais les ADF ont tissé des alliances au sein de la population locale. Vous savez que les ADF venaient de faire plus de 35 ans. Depuis 1985, il y a des hommes adultes aujourd'hui qui sont nés après 1985. Et donc, ces gens-là ont tissé des alliances. Toutes les rébellions qui se sont succédées, et même le gouvernement d'Isaïe à l'époque, avaient des alliances avec ces gens-là. Et donc, avec toutes ces alliances, on a compris. Et ça, c'était une vérité que les gens ne voulaient pas comprendre.
Oui, M. Thomas Dakamouti.
Comment nous avons conduit les travaux et le résultat n'a pas été négligeable.
Voilà, la situation sécuritaire s'améliore dans tous les territoires des Béni ou c'est seulement dans les grandes agglomérations?
Affirmatif, c'est ce que je disais. Donc, en territoire des Béni, il ne se passait plus deux jours sans enregistrer des dizaines, voire des centaines de personnes tuées. Mais depuis ce jour-là, depuis qu'on a fini le dialogue social, jusqu'aujourd'hui, jour pour jour, c'est 30 jours, même 31, puisque l'atelier a commencé, c'était le 17, aujourd'hui on est le 19, donc on a un mois et un jour, et dès lors, on n'a pas enregistré un seul mort.
Voilà.
Donc nous pouvons nous frotter les mains en disant que, entre autres contributions pour ramener la calmie sur cette partie du territoire national,
ce sont les vérités qui ont été dites par les participants.
Monsieur Thomas Dakemwetsi, avez-vous des informations sur ce qui se passe dans les des villages éloignés, des villages qui se situent à la frontière avec la province orientale, parce qu'il est dit que c'est là que certains ADF sont allés se réfugier. Vous avez des informations au sujet de ces villages? Pensez-vous que là aussi la sécurité s'est améliorée?
Pas du tout. Pas du tout. Il ne faut pas qu'on croise les bras en disant que sur toute l'étendue du territoire national, toutes les questions sécuritaires ont été résolues. Mais nous disons que l'activisme, c'est dans les territoires de Beni et la ville de Beni qu'il y avait les tueries qui se succédaient jour pour jour. Mais lorsque la contribution, vous savez, entre autres recommandations qui ont été formulées, c'était à l'égard des FRDC, à l'égard de la MONUSCO, pour qu'ils reprennent immédiatement les opérations qui venaient d'être suspendues il y avait quelques temps. Et lorsque ces gens-là, qui étaient d'ailleurs partie prenante dans le dialogue social, puisque on a invité les FRDC pour venir présenter des exposés, et ils nous ont parlé de d'où vient la faiblesse. Ils nous ont dit ceci comme vérité qu'il faut noter, puisque les gens pointaient des doigts l'armée nationale congolaise sur cette partie. Il a été dit ceci. Depuis le mois de janvier 2014, les ADF opéraient de manière classique. Donc, ils faisaient la guerre classique. Ils étaient en face des FRDC, ils s'affrontaient aux FRDC, ils venaient à...
Et maintenant ils font la guérilla, c'est ça?
Mais à partir, s'il vous plaît...
Maintenant, ils procèdent à la guérilla, c'est ça?
Pas du tout. L'étape de guérilla venait de se terminer aussi.
Merci,
donc,
monsieur.
Après l'affrontement classique, ils ont passé à ce qu'ils appellent la guérilla.
Merci, monsieur Thomas Dakemwetsi. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, est-ce que vous confirmez ces bilans dressés par la société civile du Nord Kivu?
Merci beaucoup. Je voudrais commencer par saluer le président Thomas Dakin ainsi que le professeur Bob Kabamba. Les constats, nous l'avions déjà fait depuis la fin du mois de décembre pour dresser ces bilans très positifs. Pour moi, je peux donner les facteurs qui ont concouru à l'amélioration de la situation actuelle, si vous le permettez, parce que votre émission est pédagogique. Moi, je pense que le premier facteur qui a amené à ce que nous arrivions à ces résultats, c'est les diagnostics complets que nous avons pu faire pendant 16 jours à Beni. Nous avons reçu société civile, jeunes, femmes, enseignants, FRDC, policiers, pour qu'on comprenne cette situation avec le ministre de l'Intérieur. Le deuxième facteur, c'est l'arrivée du président de la République lui-même, qui, au-delà de la compréhension théorique à Kinshasa, est venu s'ancrer de la situation pour donner des instructions claires qui, en fait, ont une corrélation avec ce qui se passe sur le terrain. Le troisième facteur, c'est la condamnation de tous les complices à Beni qui ont été arrêtés, condamnés par la Cour, notamment le colonel Birocho et plus d'une trentaine de personnes, c'est un facteur qui a amené effectivement à l'apaisement. Le quatrième facteur, je pense que c'est la dénonciation des complices visibles et invisibles. Vous savez, ici chez nous, au Kivu, lorsque un sorcier au village est connu ou dénoncé, eh bien le village respire pendant quelques jours, ça qu'on ne compte plus de morts. Ce sont des facteurs qui ont concouru à l'amélioration de la situation, auquel on peut ajouter le couvre-feu qu'on a institué dans la ville de Beni, dans les territoires. Quand on est sur le couvre-feu, on a constaté que la fouille, le bouclage qu'on a organisé nous a amené à récupérer beaucoup d'armes dans la ville de Beni, beaucoup d'armes dans les territoires, et même chaque matin, on ramassait des armes jetées parce que les gens avaient peur que leur quartier ne soit bouclé. Le sixième facteur, je pense, c'est la relance des opérations militaires sur le terrain, ce qui a permis au FRDC de quitter les zones urbaines, parce qu'on venait de créer des zones de sécurité à l'intérieur desquelles nous avons appelé les populations à quitter les milieux les plus éloignés pour venir dans les zones de sécurité, de manière à permettre à ce que les opérations se fassent effectivement dans les profondeurs. Et le septième facteur pour moi, c'est maintenant ce dialogue social qui est venu recréer le climat de confiance lorsque le diagnostic complet a été fait totalement et qu'on a compris la problématique. Eh bien, le dialogue est venu s'asseoir sur ce terreau que l'autorité avait déjà installé pour permettre à ce que les gens se parlent et qu'on recrée la confiance entre les FARDC et la population de manière à accompagner les opérations sur le terrain. Voilà, sur le plan de l'analyse, les facteurs pour moi qui ont concouru à l'amélioration globale de la situation, et ces facteurs sont complémentaires. Donc c'est la conjugaison de tous ces facteurs réunis qui a permis effectivement qu'on en arrive au résultat aujourd'hui, et c'est une satisfaction que nous pouvons avoir en tant qu'autorité de la province, en tant que responsable ayant assisté à toute cette conjugaison de facteurs, ayant assisté au dialogue social par personne interposée. Donc tous ces facteurs réunis nous ont permis aujourd'hui de dire la situation à Béni est en train d'évoluer positivement.
Oui, monsieur le gouverneur, vous avez parlé des six facteurs qui sont à la base, n'est-ce pas, de l'amélioration de cette situation sécuritaire. Et j'ai posé la même question à monsieur Thomas Dakin-Mouti. Vous pensez que la situation sécuritaire s'est améliorée aussi dans les villages éloignés?
Oui, il n'y a pas que la ville de Béni ou le chef-lieu à Ouïtcha. La situation s'est littéralement amélioré parce que nos forces armées aujourd'hui ne sont pas en train de protéger la ville de Béni, encore moins les chefs-lieux du territoire Ouïtcha, mais sont dans les profondeurs des localités qui sont connues de tous. On a détruit toutes les grandes bases qui restaient à l'intérieur du territoire de Béni, avec bien sûr l'accompagnement des forces de la MONUSCO, notamment la brigade d'intervention qui accompagne nos forces armées sur le terrain. Et donc aujourd'hui nous pouvons dire que la situation s'améliore davantage aussi bien au chef-lieu du territoire que dans la ville de Béni, que à l'intérieur de l'ensemble du territoire de Béni. Mais je dois reconnaître que les forces armées doivent continuer à rester vigilantes. On ne doit pas se frotter les poitrines parce que nous avons en face de nous des terroristes, comme ce qui a été vécu en France avec 17 morts en moins de 48 heures. Donc nous devons continuer à rester vigilants et ne pas croire que l'histoire est totalement finie. Nous nous réjouirons totalement que lorsque nous serons certains qu'on a détruit la dernière poste de résistance des ADF finalement.
Monsieur le gouverneur, le commandant de l'opération Sokola 1 a annoncé la semaine dernière que la coalition FARDC-MONUSCO a délogé les ADF de plusieurs localités stratégiques, c'est notamment Abia, Mavoumé, les camps pilotes et Issa. On savait que lors des premières opérations, les FARDC avaient démantelé toutes les bases des ADF. Alors comment vous expliquez le fait qu'aujourd'hui l'on dise que les FARDC viennent de récupérer une fois de plus Abia? Cela veut dire que ces territoires ou ces localités qui avaient été reconquises auparavant par les FARDC étaient tombées une fois de plus sous occupation des rebelles?
Non, vous savez, nous en RDC, nous avons des territoires aussi vastes que des pays en Afrique. Et que donc, on peut bien contrôler l'ensemble du territoire avec des localités qui continuent à échapper à l'autorité légalement établie. Donc, il s'est avéré qu'avec les premières opérations qui ont été menées de janvier à juin 2014, qui ont culminé par la mort du général Bahouma, ces opérations avaient eu leur succès, leur réussite. Mais il s'est avéré qu'avec la recrudescence de ces attaques, ces massacres, il y avait encore quelques petites poches qui avaient échappé effectivement à la vigilance de nos forces armées. C'est ce que le commandant Sokola 1 a clairement indiqué avoir été détruite par la coalition FARDC et la MONUSCO, et ça nous réjouit. Mais l'essentiel de ce que moi j'ai dit aux forces armées, ce n'est pas d'éloigner les rebelles, ce n'est pas de les pousser davantage dans la brousse, c'est de nous rassurer qu'on les a détruits. Parce que aussi longtemps qu'on sera en train de les évacuer, de les éloigner, on croira qu'on aura sécurisé l'ensemble du territoire, alors qu'on les a éloignés pour aller se reconstituer. Donc, ma contribution, c'est qu'au niveau des forces armées, on se rassure qu'on n'a pas fait l'éloignement des rebelles, mais on a détruit les rebelles. C'est ça le langage avec lequel nous parlons avec les forces armées et je crois que c'est ce qui s'applique actuellement.
Le président Thomas Dakin-Mouti de la société civile du Nord Kivu a affirmé que lors de ce dialogue social, l'on a identifié l'ennemi, les tueurs. Et les tueurs, c'est l'ADF, les rebelles de l'ADF Nalou. Et après la reconquête de ces différentes localités, les localités stratégiques où s'est niché les ADF Nalou, est-ce qu'il y a eu des rebelles qui ont été arrêtés? Des vrais, des rebelles ADF Nalou arrêtés?
Nous avons arrêté suffisamment de rebelles, plus d'une cinquantaine. Et je dois vous dire que parmi les rebelles arrêtés, la moitié c'est pratiquement des Ougandais, l'autre moitié c'est des enfants de la province du Nord Kivu, particulièrement originaires de Beni. Et lorsque le procès a eu lieu à Beni, tout le monde a pris des noms qui ne sont pas Ougandais, des noms qui ne sont pas Rwandais, des noms qui ne sont pas Soudanais ou Somaliens, des noms des enfants. Et c'est cela que nous avions dénoncé au début, quand nous avions dit qu'effectivement il y a une main aussi interne qui accompagnait les rebelles pour tenter de recréer une rébellion dans cette partie. Et donc ces enfants-là, égarés, qui ont été attrapés, ne sont pas à confondre avec toute la communauté de Beni. Ce que nous avions dit, que ces enfants égarés-là, on devait les traiter comme tels, comme des rebelles, et ne pas globaliser l'ensemble de la population de Beni ou de Lubero ou de Nord Kivu, que c'est des gens qui, en somme, sont des rebelles contre la République. Et moi, je suis heureux que ces enfants aient été arrêtés, et ceux-là qui ont été condamnés à mort, nous sommes informés qu'il y en a qui n'ont plus de choix que de dire exactement la vérité par rapport à ce qui les envoyait. Et nous laissons aux services spécialisés, à la justice, les soins d'accueillir tous les autres complices qui se retrouveraient malheureusement à l'intérieur de nous-mêmes pour qu'on se rassure qu'on a extirpé les virus qui cherchaient à salir la personne de l'autorité du Nord Kivu, mais également la population elle-même à travers quelques éléments égarés qui, par leurs intérêts individuels, sont en train de vouloir globaliser la situation comme si c'est l'ensemble de la population Nord Kivu ou la population de Beni qui est rebelle. Donc je suis heureux qu'il y ait beaucoup de gens qui soient arrêtés, parmi lesquels des Congolais avérés, pas des Congolais qui se sont donné les noms d'être Congolais, et aujourd'hui la justice fait son travail, les condamnés sont bien à Kinshasa, d'autres sont à Goma, d'autres sont à Beni, et nous recherchons toujours les complices à l'intérieur de nous-mêmes pour qu'on se rassure que les rebelles ougandais ne peuvent plus se servir des gens avec qui nous sommes, des gens avec qui nous habitons, des gens avec qui nous mangeons, pour que la situation ne demeure plus ce qu'elle a été pendant les derniers trimestres de l'année 2014.
Merci, monsieur le gouverneur. Professeur Bob Kabamba, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Liège, en Belgique, et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Comment vous réagissez au bilan adressé par la société civile du Nord Kivu, un bilan qui vient d'être confirmé par le gouverneur de cette province?
Bonsoir et merci pour la question. Ce qu'il faut bien se dire, que c'est une initiative qu'il faut louer et qu'il faut vraiment encourager. Parce que lorsque l'on fait l'analyse de conflits dans la région, on trouve qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau local, il y a le niveau provincial, il y a le niveau national et le niveau régional. Et l'initiative Dialogue Social vise justement à essayer de commencer à résoudre le problème par le bas et pas par le haut, comme malheureusement on le voit assez souvent. Et donc c'est une initiative qu'il faut vraiment encourager. Néanmoins, cette initiative doit être accompagnée par des dynamiques provinciales, des dynamiques nationales et des dynamiques régionales. Puisque ces différents conflits sont à différents niveaux, et chaque niveau interfère sur l'autre. Ici, le niveau régional interfère sur le niveau local. Si vous abordez la question au niveau local sans y intégrer la dimension régionale, il y a risque que l'objectif poursuivi des résolutions de ce conflit ne trouve pas de fin. Pour la bonne et simple raison que, comme le dialogue social l'a identifié, en disant de manière très claire qu'il s'agit des ADF Nalu qui ont été identifiés comme le tueur. Mais néanmoins, je voudrais quand même souligner que dans le rapport du secrétaire général de Nations Unies, il stipule de manière très claire et il confirme qu'il s'agit effectivement de groupes armés qui provoquent des violences, et ces violences sont liées à des rivalités politiques locales conjuguées à des activités économiques illégales. Et donc, de manière claire, il y a cette dynamique locale et il y a aussi cette dynamique régionale. Et donc, moi, je pense de manière claire que sans l'intégration, sans la mise en place d'un mécanisme aussi au niveau régional, il y a fort à craindre que l'initiative du dialogue social ne perdure pas dans le temps.
Voilà, le participant au dialogue social avait identifié les rebelles ougandais des ADF comme auteurs des massacres de 250 personnes dans un espace des mois. Ils ont aussi désigné certains membres des communautés locales comme des complices de ces tueries. Comment peut-on expliquer, n'est-ce pas, ces phénomènes, des Congolais qui acceptent de pactiser avec des rebelles étrangers pour tuer leurs propres frères?
Oui, la réponse elle est simple et en même temps complexe. D'une part, vous devez savoir que lorsque l'on est dans une situation où règne même une grande pauvreté, généralement, la vision la plus courte pour essayer de s'en sortir, c'est de pouvoir se lier à des groupes armés. Et pas pour se lier à des groupes armés, on a l'impression de pouvoir réussir à émerger, à quitter cette situation de pauvreté. Par ailleurs aussi, il ne faut pas non plus négliger qu'il y a l'attrait des activités économiques illégales. En ayant accès rapidement à des activités économiques qui peuvent être rentables pour ces groupes, il est plus facile effectivement de pouvoir prendre les armes et de se servir directement. Puisqu'il ne faut pas oublier que la plupart de ces groupes armés sont constitués des bandits et des autres délinquants qui n'ont rien à voir dans une société où doit régner l'ordre et un état de droit.
Voilà, vous avez parlé de la pauvreté, n'est-ce pas, qui constitue l'un des facteurs pour expliquer ces phénomènes. Vous parlez aussi de l'attrait des activités rentables. Et ces phénomènes ne signifient pas aussi l'échec des différents processus DDR.
Les processus DDR qui ont été envisagés ne peuvent réussir que s'il y a un encadrement adéquat. Depuis plusieurs années, cet encadrement n'existe pas. Depuis plusieurs années, on sait bien que lorsqu'on commence les différents processus, au bout de quelques mois, soit ceux qui sont tentés par ce processus s'évaporent dans la nature et repartent dans la nature pour reprendre les armes, soit ils sont réutilisés, c'est-à-dire qu'ils s'entrent dans des conflits, des rivalités politiques locales et qui vont servir telle cause contre telle autre cause. Et c'est cette dynamique d'encadrement telle qu'elle n'est pas mise en place de manière suivie et avec des réponses adéquates, on peut craindre que le système risque de continuer à tourner en rond. Vous pouvez voir la situation dans le Nord Kivu, vous voyez la situation dans le Sud Kivu, on a le même phénomène. Il s'agit donc des violences qui arrivent de manière cyclique. C'est-à-dire, à un moment donné, vous allez voir qu'il y a des TDR qui fonctionnent, et puis tout d'un coup, ça dégringole, et quand ça dégringole, c'est la violence qui remonte. Parce que tout simplement, le processus TDR n'arrive pas à arriver à des objectifs finaux qui sont de pouvoir véritablement désarmer et réintégrer ces bandes armées.
Voilà, nous avons été avec la notabilité qui vient de dire certaines vérités. À cause de ces vérités, nous pensons que les choses vont nous amener à un changement positif. Ça, c'est les propos, n'est-ce pas, du président de la société civile du Nord Kivu à la clôture du dialogue social. Et aujourd'hui, l'on parle de l'amélioration de la situation sécuritaire. Et cela veut dire que les causes du problème n'étaient pas à chercher ailleurs, comme les proposent certains analystes, que les causes, c'est plutôt la RDC?
Les causes ne sont pas la RDC. Et de mon point de vue, il y a une dynamique régionale très claire, puisque dans les rapports, on parle des ADF, et on parle aussi des anciens miliciens du M23 et qui se sont rejoints à ces différents groupes pour former, pour procéder à ces différents massacres aussi. Et donc, de mon point de vue, ce n'est pas uniquement le point de vue congolais, il y a une dimension régionale claire qui existe. Et c'est pour ça qui me permet d'être prudent, de dire, même s'il y a eu ce dialogue social qui semble produire des résultats sur le terrain, mais il ne faut pas non plus oublier que les ADF n'étaient pas partie prenante de ces différents dialogues. Il faut se rendre bien compte, les anciens miliciens du M23 non plus n'étaient pas partie prenante de ces différents dialogues. Donc les objectifs qu'eux poursuivent restent d'actualité, même si on essaye de couper les relais qu'ils avaient au niveau des populations locales, mais le problème va rester et pourrait même s'aggraver. Alors imaginez-vous que si la dynamique régionale change, c'est-à-dire en Ouganda ou au Rwanda, mais vous soyez sûr que de toute façon que les conflits vont revenir et vont prendre une autre dimension que celle que l'on connaît et que l'on a connue l'année passée.
Voilà, le gouverneur Julien Paluku a dit que lors de ces dialogues, il y a les diagnostics complets qui avaient été faits. Mais lorsque vous suivez le président de la société civile, apparemment c'est beaucoup plus le niveau local qui était exploité. Mais à partir du moment où les deux autres niveaux que vous avez cités, notamment les niveaux national et régional, n'ont pas été exploités, est-ce que vous ne pensez pas que il est trop, trop tôt, n'est-ce pas, de dire que la situation sécuritaire s'est améliorée?
Oui, parce que si vous pouvez reprendre aussi l'histoire, qui nous apprend beaucoup de choses. Je crois que le gouverneur du Nord Kivu a fait quelque chose, et le président de la société civile du Nord Kivu, il a fait quelque chose. C'est-à-dire que chaque fois que l'on a eu des systèmes, des résolutions qui permettent de pouvoir arriver à améliorer la sécurité, il y a toujours des éléments régionaux qui interviennent et qui remettent en cause cette sécurisation. Et ça sera toujours la même dynamique. Les accords de Tissabeba qui sont venus apporter une certaine réponse au niveau de la dimension régionale, n'ont pas encore nécessairement permis de pouvoir dire que tous les niveaux interagissent ensemble et poursuivent les mêmes objectifs. La preuve, lorsque l'on parle, par exemple, pour parler de l'élimination des FDLR dans la région du Nord Kivu et partout ailleurs à l'est du Congo, ben, on voit bien qu'au niveau du Rwanda, au lieu de se réjouir de cette initiative, ben, il la dénonce en disant qu'elle n'est pas efficace. Et donc, ça veut dire clairement que les objectifs, les dynamiques et les moyens mis en place pour essayer de résoudre les problèmes de sécurité dans l'est du Congo ne sont pas partagés et ne sont pas partagés par les différents niveaux. C'est ça la difficulté pour ma part qui me fait dire que ben, c'est une bonne initiative, mais malheureusement elle est complexe et que le conflit pourrait toujours revenir.
Professeur Bokabamba, nous allons prendre pour vous cette question qui vient de Bukavu au sud Kivu.
Robert Mohamed de Bukavu au sud Kivu. Le dialogue social organisé récemment à Beni par la société civile du Nord Kivu n'est pas en soi mauvais. Je pense que ce n'est qu'une solution cosmétique, une solution à court terme au problème à la base de l'insécurité dans cette partie de la RDC. Encore faudrait-il nécessairement que des stratégies beaucoup plus efficaces soient réellement arrêtées ou montées pour pouvoir mettre de manière durable et structurelle un terme à cet état de choses en territoire de Beni.
Professeur Bokabamba.
Tout à fait, l'auditeur est pertinent par son intervention. Et effectivement, il y a aussi une autre dimension qu'il faut souligner. Effectivement, le dialogue social a eu lieu, a promis des recommandations. Mais il faut maintenant aussi la mise en œuvre de ces recommandations. Et la mise en œuvre de ces recommandations ne dépend pas du fait du dialogue social, mais dépend des autorités. Autorités locales, autorités provinciales, autorités nationales et autorités régionales. Donc, il y a cette mise en œuvre de ces différentes recommandations qui sont indispensables aussi. Il ne suffit pas uniquement de faire le dialogue et de pouvoir faire le diagnostic et se dire ben, qu'on a réussi, mais il faut qu'il y ait la mise en œuvre, le suivi et l'application de ces différentes recommandations. Et c'est là, je pense, qu'il y aura aussi une crainte et surtout un manque de moyens pour pouvoir arriver à éradiquer ce problème qui n'est pas uniquement un problème de Beni-Lubero, mais qui est un problème beaucoup plus large et qui voit même une dimension régionale, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Thomas Dakamwiti, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient des Dungu en province orientale.
Crispin Alibou, à partir du territoire de Dungu, province orientale. Que la rencontre sociale tenue à Beni soit jugée de positif à l'état actuel, quoi de normal, parce qu'il y a apparemment arrêt souhaité du massacre. Cependant, cela ne prouve-t-il pas à suffisance que c'était plus une crise sociopolitique congolaise reposant sur des sensibilités internes, ce qui exigeait aussi un pourparler interne plutôt que de vouloir éteindre le feu par le feu. Mais aussi, n'est-il pas imprudent d'évaluer sitôt cette assise, car la cendre actuelle de l'incendie n'est pas synonyme de l'extinction du feu.
Thomas Dakamwiti.
Je pense que l'auditeur a raison quand il dit que ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas la finalité en soi. La finalité pour nous, c'est ce que le gouverneur a dit, qu'il faut mettre fin au terrorisme dans les territoires et villes de Beni. C'est ça ce que nous souhaitons. Et je pense que même le professeur Bob en a fait allusion en disant ce qui est en train d'être perceptible sur le terrain aujourd'hui doit être accompagné par d'autres actions, tant au niveau provincial, au niveau national qu'au niveau régional. Et c'est ça la réponse, je pense que notre ami de l'Ituri qui vient d'intervenir a raison. En disant que, en tout cas, il y a le comité de suivi qui a été mis en place, que je préside moi-même, avec des notables, même la représentation du gouverneur lui-même se trouve dans ces comités de suivi. Je viens de Kinshasa pour essayer de faire le suivi auprès de certaines personnalités pour qu'ils s'approprient la suite de l'activité. J'ai eu des promesses et je pense que on ne va pas croiser les bras en disant que ce qui est en train de se vivre à Beni aujourd'hui, c'est tout, c'est la solution, et puis on peut croiser les bras. Non. Sinon, le gouverneur n'allait pas parler de ce qu'il a dit, qu'il lui recommande au FRDC de mettre toutes les batteries en marche pour que la calmie qui s'observe aujourd'hui soit consolidée et que l'activisme des ADF et leurs alliés sur le terrain soit mis définitivement fin.
Oui,
c'est ça l'idéal.
Monsieur le gouverneur Julien Paluku, nous allons prendre pour vous cette question qui vient une fois de plus de Bukavu au sud Kivu.
Je suis Franklin Matumaini, je vous appelle depuis la ville de Bukavu dans la province du sud Kivu. Cette situation prouve que l'insécurité à l'est persiste à la suite du cloisonnement qui caractérise les pouvoirs à la matière. Avec le slogan, je cite, la question sécuritaire est une question stratégique laissée aux experts, fin de citation. Car aujourd'hui, les dits non-experts de la société civile prouvent le contraire, là où les mesures proposées par les experts du gouvernement se sont avérées vaines. Mais je pense qu'il faut éviter la récupération politique et les sentiments de suffisance qui sont la marque des gouvernants congolais et comprendre que toute action menée sans adhésion de la population dans n'importe quelle matière est une peine perdue.
Monsieur le gouverneur Julien Paluku.
Il n'y a pas de croisement du pouvoir par rapport à cette question. Moi, je crois que les gens ne doivent pas avoir des réactions épidémiques par rapport à ce qui se passe à l'Est. Parce que, qu'il s'agisse du Nord Kivu, du Sud Kivu, les gens doivent savoir que ce n'est pas la pauvreté qui est à la base de ce qui se passe ici. Sinon, au Bandundu, moi j'y étais, c'est plus pauvre qu'au Nord Kivu. En tout cas, dans l'Équateur, c'est plus pauvre qu'au Nord Kivu. On n'a jamais eu des groupes rebelles là-bas. On n'a jamais eu des gens qui cherchent à pouvoir envenimer la situation. Qu'est-ce qui est à la base de ce que nous connaissons au Kivu? C'est que, depuis 96, il y a une succession de rébellions. Et beaucoup de gens ont accédé au pouvoir par le simple fait d'avoir pris les armes. On a vu des gens qui occupaient des postes ministériels, on a eu des généraux un peu partout, et ce sentiment-là est en train de poursuivre malheureusement les gens du Kivu. Il y en a qui pensent que une fois ils se recroquevillent autour d'une colline, ils peuvent sortir de là, ils se réveillent un matin, ils sont généraux, ils sont colonels, ils sont ceci. Ou on va négocier avec eux, demain ils sont au gouvernement, ils sont ministres, etc. Moi je crois que c'est là les diagnostics que nous devrions poser pour nous dire, est-ce que nous sommes les seuls pauvres au Kivu pour que nous puissions prendre les armes à chaque fois que nous nous sentons dans une situation malsaine? C'est ça moi l'analyse que j'ai fait de la situation du Kivu. Et c'est malheureux que ce soit le Kivu qui ait cette expérience-là. Mais si nous prenons conscience qu'effectivement nous avons ces malheurs-là qui nous poursuivent sur le dos, nous tous, que si nous comprenons que cela ne doit pas nous dominer pour croire que nous devons devenir aux rébellions pour accéder au pouvoir, si nous affirmons le principe selon lequel il n'y a que la démocratie qui peut nous amener au pouvoir, notamment les élections, si nous nous inscrivons dans cette voie de consolider les voies démocratiques, attaque en face du Kivu, je crois que c'est là la solution qui nous amènera à mettre un terme à toutes ces gesticulations que nous voyons ça et là. Sinon, ce qui se passe à Beni, je l'ai dit plusieurs fois, les rebelles ougandais, en quoi est-ce que tu es à Beni ou à Eringeti, va les amener à aller conquérir le pouvoir en Ouganda? C'est cela qui m'a amené à dire, eh bien, ceux qui tuent à Beni, ils peuvent être des Ougandais, mais le centre, le moteur de ce qui se passe, ça doit être des personnalités congolaises, parce que les rebelles ougandais n'ont rien à gagner comme pouvoir, ni à Beni, ni à Goma, ni à Kinshasa. C'est comme ça qu'on doit analyser la situation, au lieu de nous perdre dans des considérations trop partisanes et trop épidermiques.
Monsieur le gouverneur, que faut-il pour sauvegarder cet acquis? Vous avez suivi le professeur Bob Kabamba, qui a salué l'initiative. Hein, il a salué l'initiative, il estime que c'est une bonne initiative, mais qui n'est pas complète, parce que la dynamique nationale, la dynamique régionale n'ont pas été suffisamment exploitées.
Moi, je pense que beaucoup d'actions échouent par manque de suivi, et au niveau central, et au niveau provincial, et au niveau local. Et je crois que les dialogues, au lieu d'être un fait ou un phénomène ponctuel qui s'est passé en décembre à Beni, il devra être permanent. Et le comité de suivi devra être permanent avec des indicateurs objectivement vérifiables et un chronogramme bien établi pour qu'on dise à telle période il faut qu'on arrive à tel résultat, à telle période il faut qu'on arrive à tel résultat avec tel moyen qu'on va mettre en jeu. Mais souvent, chez nous les Congolais, quand on a fait de très bonnes assises, on définit de très beaux concepts, on sort des thèmes de référence et puis c'est tout, on met dans les tiroirs et rien ne suit. Moi, je crois que ce qui est important, c'est qu'on examine quelle est la dimension locale qui doit être exploitée, quelle est la dimension provinciale, la dimension nationale et la dimension régionale, en définissant les acteurs pour chaque échelon. Et à ce moment-là, on peut espérer qu'on va arriver à un résultat. Mais si tout le monde pense que tout le monde va faire, eh bien, tout le monde ne va rien faire. Et je crois que c'est cela, moi, la contribution que je peux donner par rapport à cela. Et moi, au niveau provincial, je suis en train de chercher à remplir valablement mes obligations par rapport à la pérennisation des acquis du dialogue, à rapprocher davantage les communautés, en pérennisant ce qui a été dit comme recommandation pour que chaque acteur puisse être identifié avec le niveau de sa responsabilité.
Monsieur le gouverneur, un mot en swahili pour rassurer, n'est-ce pas, les populations qui vivent dans les territoires de Beni. Ça sera sous votre conclusion.
Watoto wa Beni, watoto wa Nord Kivu, ya muhimu ni kuweza kushikana mkono ili tumjue adui ni nani. Na kwa siku za leo hakuna ambaye atakamata madaraka, akuwe gavana, akuwe rais kupitia silaha. Kitu kubwa ya kujua katika jimbo letu la Nord Kivu ni kwamba tumesumbua nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunapaswa sisi wenyewe kujua ya kwamba kwa sababu tumesumbua nchi siku nyingi tuweze kujikubali kama watu ambao wana makosa ili tutoe mchango wetu kwa ajili ya kuleta maendeleo na amani ya kudumu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Merci, monsieur le gouverneur. Professeur Bob Kabamba, que faut-il pour se regarder cet acquis? Vous avez suivi le gouverneur Paluku qui pense que le suivi doit être permanent.
Permanent et aussi mettre en place quand même des niveaux d'alerte au niveau des populations pour pouvoir enfin que ces populations puissent connaître la paix après tant de violences et tant de morts. Cette dynamique n'est possible que si le dialogue social tel qu'il a été initié s'accompagne d'autres dynamiques à d'autres niveaux. Je pense que cette initiative de Beni pourra être saluée et lorsque les autres niveaux pourront intégrer la dynamique du dialogue social de Beni.
Et en guise de conclusion?
En guise de conclusion, il ressort encore une fois que la société civile, et lorsque les populations peuvent se prendre en charge et essayer de définir leurs problèmes, il est possible de pouvoir les résoudre. Et donc, de manière claire, la société civile doit continuer à remplir son rôle et doit contribuer à remplir ce rôle qui est de pouvoir permettre aux gens et aux autres de pouvoir se réunir et de pouvoir trouver des solutions aux problèmes qui leur sont opposés.
Monsieur Thomas Dakemwiti, votre conclusion?
Ma conclusion, c'est de continuer à solliciter l'accompagnement du gouverneur au niveau provincial, comme il l'a toujours fait, pour que, comme il l'a souhaité, que les résolutions issues de ce dialogue ne soient pas comme les autres les font en les mettant dans les tiroirs. Donc nous avons besoin de l'accompagnement du comité de suivi, un accompagnement technique, un accompagnement matériel et financier. Et aussi au niveau national, nous pensons que nous n'avons que le gouverneur qui peut plaider pour nous pour que, effectivement, ce que Bob Kabamba a proposé, que le comité de suivi doit pro-agir et au niveau provincial, local, merci, national et voire même au niveau régional.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Paul Badianyama qui était à la technique. Merci à Alain Hirung et Berry Franklin Luchaka qui m'ont aidé à préparer cette émission sous la supervision de Julien Nyamouni. À la présentation, Guy Maté. Merci et bonne suite des programmes sur Radio Capi.